la grâce, la foi, et ensuite, je pense que c'était Alexis qui parlait aussi communiquer la présence de Dieu, c'était bien ça. Et ensuite, nous avions un invité, un pasteur anglais, qui nous a parlé, donc, il nous a dit, crois et tu verras la gloire de Dieu, ça vous dit quelque chose? Donc, il a parlé de la résurrection. Et finalement, moi, je vous ai parlé de la foi et aussi, je vous ai dit, donc on va reprendre ce verset, que la foi sans les œuvres est morte. Il y a trois personnes parmi vous qui sont venues me voir parce qu'ils étaient vraiment interpellés. Et quelque part, je sentis même comme si c'était là un peu de culpabilité. Vous voyez, parce que la foi sans les œuvres, la foi est morte, d'accord? Et donc, je vais reprendre un peu ça pour qu'on ne reste pas sur cette pensée négative et aussi la culpabilité, mais plutôt cette parole est tranchante, oui, mais en même temps, ça nous propulse pour aller plus loin, pour ne pas rester sur place. On est bien d'accord? Et donc, je vais reprendre ce verset de Jacques, chapitre 2, et les versets 14 à 18. Alexis, tu peux nous lire pour tout le monde, si tu veux bien.
Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pouvoir pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi.
Et on va prendre encore le verset 26.
Oh. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
C'est tranchant, hein, c'est tranchant, mais bon, la parole de Dieu, c'est oui ou non. On avance ou non, le péché ou non, sauvé ou pas sauvé, voilà, ou t'as choisi ou t'as pas choisi, la parole de Dieu est tranchante. Amen. Voilà, donc on n'a pas de choix, mais voilà, on n'est pas là pour juger les uns les autres, on n'est pas là pour prêcher la culpabilité, on est là pour encourager les uns les autres, pour construire, pour aller plus loin. Amen. Voilà, tout simplement. Alors, comment faire pour ne pas accepter cette culpabilité? Si on se culpabilise, c'est parce que on n'est pas net devant Dieu quelque part. On a quelques fautes, quelques faiblesses, des imperfections. Et très vite, l'ennemi profite de ça et il nous culpabilise. Alors, au lieu de se culpabiliser, voilà, on nourrit la foi. Alors, comment on peut nourrir la foi? Par la lecture de la parole de Dieu et aussi par la prière, par la connaissance de la parole de Dieu. Vous savez que moi, je suis troisième génération de chrétien, j'avais un père remarquable, voilà un homme de Dieu remarquable qui a marqué le pays par l'autorité que Dieu lui a donnée. Mais ce n'est pas ça qui m'a sauvé, vous comprenez? Oui, c'est un exemple, mais c'était lui. Mais quelque part, moi, j'ai dû prendre ma décision, d'accord? Et pendant toute ma vie, voilà, il y a les combats, il y a les difficultés, et je dois nourrir ma foi, la foi. Donc, quelquefois, je me réveille la nuit, même, voilà, j'ouvre juste la parole de Dieu, et je lis les histoires que je connais très bien. Et malgré un exemple. Ici, on nous a dit, on nous a parlé de la résurrection de Lazare. On nous a parlé de toi et tu verras la gloire de Dieu. Ben, c'est un verset que je connais tellement bien, et vous connaissez aussi, mais c'est par cœur. Mais le fait qu'une fois de plus, il a prononcé cette parole, quelque part, ça motive ma foi. Oui, je dois croire. Oui, je dois motiver mon zèle vers Dieu et je dois nourrir ma foi par la parole de Dieu. Cette parole me motive, nourrit ma foi grandit et puis on avance de cette façon-là. Amen. Voilà, donc la foi se manifeste par des actes concrets d'amour, comme Jésus aimait, Jésus s'est donné, Jésus s'est offert, Jésus s'est sacrifié. Amen. Donc dans notre vie, la même chose. Notre foi se manifeste par des actes concrets. Alors, quels sont ces actes? On verra. Donc, quand on parle d'amour, de charité, etc., aider, penser, encourager, d'être là quand il faut être là. Voilà. Donc, vous voyez, cette foi est en action. Elle est active. Amen. On n'est pas là juste pour écouter, pour savoir, voilà, avoir la connaissance. Mais notre foi est en action. Comme Jésus, il était. Donc il y avait la parole, il prêchait la parole, d'accord, la puissance de la parole. Ensuite, il y avait la consécration totale de la part de Jésus. Il était notre exemple, notre modèle, d'accord. Et en même temps, il a démontré le sacrifice sur la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Amen. Il a payé le prix. J'aime bien, ici, je ne sais pas si c'était dimanche passé, on avait la Saint-Cène, on ne fait pas tous les dimanches parce qu'on veut que ça soit plus sérieux, etc. Sinon, ça devient habituel. Et cette Saint-Cène nous rappelle, attention, Jésus est mort pour nous. Ça va, Nicole, toi, quand il y a la Saint-Cène, moi, je te vois déjà au ciel. Vous comprenez? Ça nous rappelle, ça nous dit, attention, réfléchis, dépose tes imperfections, tes péchés, prends la victoire, avance, Jésus est mort pour toi. Et il a payé le prix pour nous. Voilà, donc, c'est Jésus qui a démontré la foi en action. Alors maintenant, je vais vous montrer comment les hommes, si on parle de Jésus, tout le monde peut dire, ah ben Jésus, le Fils de Dieu, il est venu, il est plein d'amour, etc. Mais Jésus, il était comme toi et moi, quand il était là sur la terre. Mais je vais vous démontrer une équipe d'hommes, qui ont aussi compris quelque chose. Donc, à Corinthiens, chapitre 3, versets 6, 7 et 8.
J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail.
Donc vous voyez, c'est Paul qui dit, j'ai planté, j'ai ensemencé. Et pourtant, vous connaissez l'histoire de Paul, combien c'est lui qui était le persécuteur d'église. Et il était saisi par la puissance de Jésus, d'accord, sauvé, transformé, changé. Et donc, lui-même, il dit, j'ai planté, j'ai ensemencé. Donc, recevoir Jésus dans notre vie, c'est une chose essentielle, importante. Je passe de la vie à la mort. Et ensuite, je me mets en action. Je mets ma foi en action. Je veux que ma foi soit active. Amen. J'ai planté. Je ne reste pas juste dans mon confort de salut. Je plante, je travaille. C'était un homme. Et un homme pécheur avant, hein? D'accord? Et donc, il va plus loin. L'équipe. Là, on découvre une équipe qui travaille ensemble. Il n'y a pas juste un ministère, pas juste un pasteur, un évangéliste. Mais ensemble, nous formons une équipe et nous travaillons. Puisque nous voulons que la foi soit en action. Donc, Paul. Ensuite, il dit, Apollos a arrosé. Allô? Apollos a encouragé. Apollos a partagé la parole de Dieu. Apollos a prié pour les gens. Apollos, il a dit, lève la tête vers le haut d'où vient là. Ça, c'est mes expressions, j'aime tout ça. Lève la tête, en avant. Quelquefois, les gens ne me comprennent pas, mais ceux qui sont plus longtemps avec moi, quand je dis, je monte, juste un geste, souvent je suis compris. Il ne faut pas rester comme ça. Vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, ben voilà, vous avez compris ce matin. Parce que c'est tellement fort, quelquefois un geste. Si je prie pour, dans ce sens-là, pendant une demi-heure, Satan a compris chaque parole, mais quand je fais ça, ben Satan ne comprend pas tout. Non. Et quand vous priez en langue par le Saint-Esprit, Satan ne comprend pas non plus. Voilà, donc, je reviens à Apollos. Alors, je vais dire à Apollos, une fois dans l'éternité, hein. Ah, t'as fait un bon boulot, hein, Apollos. T'as travaillé avec Paul. Ah. Tu as arrosé, tu as aidé d'autres personnes à aller plus loin dans la foi, pour que la foi soit en action. Mais, voilà l'équipe. Paul, Apollos, François, Jean. Anne. Claudine. Pierre. Charles. On est en action. Mais si nous en s'émançant, ensuite nous arrosons, si on plante et on n'arrose pas, est-ce que ça va grandir? Allô? Ben non! Et si on arrose quelque chose que nous n'avons pas encore planté, est-ce que ça va grandir? Des mauvaises herbes. On en s'émance, la parole est en action, mais c'est Dieu qui fait la croissance. C'est Dieu qui fait la croissance. Amen. Dites maintenant les uns aux autres, on s'émance. Et à ton voisin à côté, arrose. De cette façon-là, Dieu va accorder quoi? La croissance, ça va grandir. Ça va grandir. Et si ça ne grandit pas, on revient en arrière. On ne s'émance pas. On n'arrose pas. La foi sans les œuvres et quoi? Ben voilà. ne te culpabilise pas, mais sois propulsé. Il y a une sortie pour aller plus loin avec Dieu. Alléluia. Bon, elle n'est pas très forte aujourd'hui avec moi là. Juste à dire une fois Amen. Bon, tu te rattrapes encore. Ensuite, donc la foi invisible se voit par les actes. La foi invisible se voit par les actes. S'il n'y a pas d'actes, la foi est morte, parce que vous savez quoi? Satan croit aussi que Dieu existe. Est-ce que vous êtes convaincu? C'est écrit, hein? Plus bas. Satan croit que Dieu existe. Et il y a tellement de gens autour de nous qui disent « Ah, je pense que Dieu existe. » Et il n'y a rien de plus. Et Satan croit et il tremble devant Dieu. Parce qu'il connaît les dangers. Il connaît son avenir. Son éternité terrible. Mais Dieu nous a libérés de tout ça. Amen. Donc maintenant, on va s'arrêter juste 2-3 minutes sur la question de Dieu. On plante, on arrose, Dieu fait la croissance. Donc lisons la parole de Dieu encore. 1 Corinthiens, chapitre 2, et les versets 4 et 5.
Oui. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Voilà, c'est très, très, très profond, très puissant. Donc, il y a vraiment la question du Saint-Esprit, ma parole, ma prédication. Ouais. Ne reposez pas tout simplement sur nos discours, notre sagesse, notre philosophie, tout ça, mais sur une démonstration. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, comment expliquer la démonstration de Saint-Esprit? Quand j'étais tout jeune, et pourtant j'en ai vu des choses qui se sont passées dans les ministères autour de mon père et tout ça, des choses formidables que j'ai vues, mais je suis devenu jeune prédicateur et je me suis dit, bon, bah, quelquefois je vais faire mieux que mon père. Bon, différemment, pas mieux. Et quand on avait des personnes démoniaques, il y avait quelqu'un qui s'est converti à Loubard. Je vous ai déjà raconté un peu ça. Ben, il a ramené les gens comme ça. Et certains ont voulu être vraiment libérés, mais ils étaient possédés. Alors, Christiane, elle est partie à la maison avec les enfants, puis moi, je suis resté avec 2-3 personnes à la source. Et puis on a commencé à chasser. Mais on a tellement chassé qu'à la fin, moi, j'avais plus de voix. Parce que je me suis dit, il faut aller fort, puissant, crier, prendre l'autorité à ma façon. Et puis finalement, je n'avais pas de résultat. Et je suis venu à la maison, et la nuit, on avait 2 enfants. Il se réveillait et puis il priait. Ah, il y a des soldats dans la chambre, il y a des soldats dans la chambre. Alors j'ai dû me réveiller. Des soldats. Ils ont vu des soldats. Et on a compris quels soldats. Des soldats démoniaques. On a dû faire. Donc aujourd'hui, j'ai dû appelé des anciens, mes collaborateurs, et on a prié à la maison, et puis ensuite, voilà, Christiane, j'étais contente parce qu'il y avait la paix. Et les enfants, la même chose. Vous comprenez, quelquefois, oui, Jésus aussi, il a la voix. Mais il y a des moments où il y a des choses qui se passent dans les calmes. Est-ce que vous croyez? Alors, je vous raconte pour terminer mon intervention, puis on va prier. Est-ce que c'est fini là? Oui, démonstration. Je vais vous parler de la journée d'aujourd'hui. C'était vendredi, j'étais interpellé, et puis on m'a dit, là, dans cette église, il n'y a pas de louange, pas d'équipe de louange, c'est les vacances. Et on envoie les Américains là-bas, dans cette église-là. Je réfléchis. Dans une autre église, il n'y a pas de prédicateur, il n'y a pas de la louange. Je réfléchis. Et je commençais à faire à ma façon. Dieu m'a donné l'intelligence, je réfléchis. Les gens me font la confiance. Donc, je mets en place un fonctionnement pour aujourd'hui. C'était vendredi. Je me suis dit, je vais téléphoner chez un musicien ici. Je ne vais pas vous tout parler, tout dire, tous les détails. Je téléphone, ça ne répond pas. J'ai dit à Christiane, si cette musicienne vient, toi tu chantes, et moi je demande à Alexis prêcher ce matin ici, et je vais prêcher là-bas. Parce que nous on se comprend. Moi, je peux lui téléphoner même avant le culte, que je ne suis pas bien ou quoi que ce soit, c'est comme ça. Et lui, la même chose dans l'autre sens. On est prêt à tout moment. On se lève et on prêche. Et je lui téléphone, il ne me répond pas. Normalement, il me répond souvent, juste 30 secondes après, ou voilà, on fait comme ça. Après, il m'a téléphoné, mais je ne lui ai même pas dit, il ne sait même pas de quoi je parle. Parce que. Et ensuite, je téléphone chez quelqu'un d'autre, pas de réponse. Je téléphone, hein. Et je partage ça avec Christiane, elle me fait une petite grimace pour me dire, ça, c'est pas bon, ce que tu es en train de faire. Et je pense que Dieu m'a parlé par elle, par sa petite grimace. Gentille, hein, gentille, attention. Et pas qui. Hein. Et ensuite, hein, voilà, j'étais pas inquiet, hein, j'avais la paix, puis voilà, il faut faire les choses, c'est les vacances, il faut agir. Il faut mettre la foi en action, mais à façon. Et ensuite, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un, il m'a dit, tout va bien, c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, et là c'est bon. Ah ben ça va, c'est pour ça qu'ils m'ont pas répondu. Alors là, j'ai vu vraiment Dieu. Vous comprenez, même dans des petites choses, on a l'impression que c'est des petites choses, mais ce sont des choses importantes. Il s'agit de donner un prédicateur à une église ou quelqu'un pour diriger l'équipe des louanges. Ce sont des choses importantes, ce n'est pas juste voilà, une petite chose. Vous comprenez, c'est tellement important. Et puis Dieu dirige. Et moi, j'ai dit. Et puis après, Christiane, elle était bien contente. Elle a profité de tout ça pour me dire, t'as vu? T'as vu? On s'amuse bien avec Dieu. Mais quand on est sérieux avec lui, il nous aime. Il est notre Père. Il est notre Dieu. Nous avons, cette semaine, des événements importants. Donc voilà, ça a été dit. Donc, voilà, je voulais aller déjà plus loin. Il est là, Thierry? Pourquoi il est parti?
Il est parti avec
Bon, c'est pas grave. Regardez l'importance d'annoncer l'Évangile par ces biais-là. Ça fait 25 ans déjà. Je pense qu'au moins 25 ans, on dit quand Steve était là. C'est avec lui qu'on a commencé. Avec Steve. Voilà, et ça continue. Et moi, dernièrement, je suis tellement interpellé parce que j'ai dit, Seigneur, on avait des fruits au départ, un peu mois après, puis voilà, tout ça. C'est tellement, tellement comme important quand on fait quelque chose, quand on agit, quand on fait l'évangélisation. Voilà, bah, je plante, j'arrose. Ben, quelque part, Dieu nous voulait les fruits. Je pense à cet arbre, le figuier. Figuier, et puis Jésus est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus passé à côté, et puis il regarde le figuier, un arbre qui n'a pas de fruits. Il a maudit l'arbre. Vous voyez? Alors, moi, j'étais travaillé toute ma vie par ça. Tout ce qu'on a fait, à titre personnel, à titre du couple, la famille, l'Église est un arbre, ou plusieurs arbres, qui doivent porter le fruit.
Amen.
Qui doivent avoir cette voix agissante qui produit les fruits. Amen.
Amen.
Ah bah, ça m'encourage. Hein. Avec lui, on va lui donner un point en plus. Mes amis, il y a le mariage. Le mariage, on aura du monde. Et des gens qui ont vraiment besoin de Jésus. Ah. Des gens que nous avons rencontrés. Avec des gens avec qui nous avons eu certains priés, ces gens ont besoin de Jésus.
Amen.
Alors que le mariage, c'est un partage. Vous voyez, l'évangélisation le samedi, plus ici le mariage. Voilà, on s'est mal compris au départ. Bon, c'est pas grave, c'est du passé. Donc on veut vraiment se partager. Et puis que ce mariage, le premier comme deuxième, dans une semaine après, c'est ça,
ouais.
Soit une bénédiction. Que ce ne soit pas juste la cérémonie, voilà. Moi, je ne vais même pas acheter le costard, ça, c'est pour quoi faire. C'est le cœur, amen. Bon, j'en ai déjà. Seigneur, nous voulons des fruits, que les gens soient touchés. Pas pour une église, pas pour une fédération, pour un groupement d'églises, mais pour que les gens soient touchés qui viennent de la bergerie de Jésus.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Que chaque action soit productive. Et le fruit. Seigneur, le fruit. Et le fruit, c'est toi. C'est toi qui fais grandir. Et c'est pourquoi nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de faire tous nos efforts personnels. Voilà, courir après Dieu. Voilà. Pour que Dieu, voilà, la sainteté, le sacrifice, tous ces aspects puissent produire quelque part une foi forte, agissante, qui reçoit les bénédictions de Dieu. Amen.
Amen.